France Culture.
Bonsoir, le Vauquier, comment ça va?
Bonsoir.
Un petit test par applaudissement. Qui n'est jamais venu au Moki? Que des habitués. Alors, et qui n'est jamais venu au Mokiri? Très bien, magnifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mokiri, c'est un plateau d'humour où on vient tester des blagues. J'en ai fait une bâche. Laboratoire de blagues qui a été payé avec tous les chapeaux qui existent depuis 10 ans, et heureusement que à chaque fois il y a plus de monde que ça. Sinon clairement je serais en négatif avec l'achat de cette bâche. Donc voilà, c'est un laboratoire de blagues, c'est là où on vient tester des blagues qui peut-être se retrouveront à Montreux, sur Rire et Chanson, Jamel Comedy Club. Voilà, c'est la principale raison de cette gratuité, c'est parce que comme ça vous nous demandez rien, quoi. On reste amis, même si c'est de la merde, même s'il y a des bides, on vous doit rien. En plus, je vous le dis, mais faut faire du bruit parce qu'il y a France Culture qui est venue faire... ils font un documentaire sur le rire sur scène et c'est bien qu'ils fassent le documentaire sur le rire sur scène plutôt que sur le rire en salle. Je trouve que ça a été bien choisi, la thématique du documentaire. Voilà, donc c'est un plateau où j'invite à chaque fois 4 ou 5 humoristes. Je dis ou 5 parce que...
Vous savez, il y a une grande blague dans l'histoire de la pensée philosophique qui dit qu'en fait, on a récupéré la tragédie d'Aristote, mais qu'on a perdu la comédie qu'il avait écrite. Et qu'en fait, depuis cette espèce de péché originel, eh bien, toute la pensée occidentale s'est désintéressée du rire. En fait, elle n'a pas investi dans le rire tout le sérieux qu'elle avait mis à expliquer tous les phénomènes restants. Enfin, je veux dire, Dieu, la conscience, la justice, le politique, bref. En fait, le grand impensé de la civilisation occidentale et de la pensée philosophique occidentale, c'est le rire, justement.
On ne sait pas ce qu'il y avait dans ce second livre qui a été perdu. Et ce qu'on sait, en revanche, ce qui a été écrit, c'est qu'il a dit que la tragédie est supérieure et plus noble que la comédie, parce que la tragédie nous présente les hommes tels qu'ils devraient être, animés par des passions nobles et pures et élevées, alors que la comédie nous les présente comme ils sont.
Qu'est-ce que le rire?
C'est une vaste question.
Oui,
si l'on s'en réfère à Physoctète, au Callistos, Einaï, Aristoteles, Ipséa, à partir de là, tout est dit, n'est-ce pas?
Tout est dit.
Le rire est avant tout cosmique et multiproportionnel.
Oui, très bien.
Si on lit les textes des théologiens depuis le début de l'histoire du christianisme jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les plaisanteries, le rire, l'humour, pour eux, c'est le diable. Il n'y a pas à finasser là-dessus.
En littérature, d'un point de vue scolaire, on nous fait très rarement étudier les textes les plus drôles, parce qu'on va considérer que le drôle, c'est trop vulgaire, c'est trop grossier, c'est trop facile, puis on n'a pas envie d'une classe qui se marre parce qu'elle sera plus tenable. Il y a cette hiérarchisation qui nous a marqué durablement.
Faire rire sur scène.
C'est comment, avec ce qui est anodin, avec ce qui serait aussi la culture populaire, le folklore.
Sur France Culture.
La bêtise, la connerie, comment tu fais un grand art noble.
Une série documentaire de Romain de Bec de Lièvre et Anne de Pelchin.
Épisode 1.
Généalogie du stand-up.
Et puis, je pense qu'il faut élever la connerie au rang d'art absolu.
En toute humilité.
Alors, je vous explique un petit peu ce que vous allez voir ce soir. On est 6 humoristes. Vous allez voir 10 minutes chacun. Chacun va tester des blagues. Et voilà. Et vous rigolez.
Moki Bar.
Daniel.
À Paris. Novembre 2024.
C'est exactement pas le genre d'ambiance qu'on veut avoir, Daniel. C'est le genre de ouais qu'on veut pas avoir. Est-ce que tu peux me faire un ouais un peu jouissif, Daniel?
Oui.
T'es au max, là, mon Daniel? Putain.
Je suis à fond.
T'as dû en mettre pas mal d'étoiles dans les yeux, toi, avec...
Il y a eu un désintérêt historique, hein, du rire.
Adrien Desnouettes, critique.
Il y a tout un tas de scènes qu'on n'a pas documentées. On parle toujours de Bouffon du Roi et tout, mais c'est très très difficile de trouver des sources, des noms, des artistes de cette scène-là. Alors voilà, Shakespeare, Erasme et Rabelais ont survécu parce que les qualités littéraires de ce qu'ils ont fait. Mais... je sais pas, imaginons que Shakespeare ait eu en fait une activité annexe de l'équivalent du stand-up à l'époque, où en fait il faisait des spectacles hyper populaires. On n'en aura jamais gardé la trace de ça. Moi je l'explique parce que ça ne fait pas très sérieux de s'intéresser au rire, parce que c'est populaire et donc subalterne. Populaire égale le peuple.
Le stand-up, en fait, t'as besoin d'une enceinte et d'un micro, donc tout le monde peut s'y mettre.
Tristan Lucas, humoriste.
Après, tout le monde peut pas s'y mettre parce que l'idée, c'est de faire croire que c'est naturel alors que ça ne l'est pas. Donc ça, ça demande du travail. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on peut avoir du stand-up un peu partout. Ça décloisonne un peu les trucs. C'est-à-dire que des gens qui vont être un peu frileux d'aller voir du théâtre, et ben, le stand-up, c'est plus accessible. Et il y en a beaucoup qui critiquent le stand-up. Mais moi, je pense que c'est vraiment une main tendue vers ceux qui ne vont jamais au théâtre. Et après, il y a des... mauvais côté, avec des blagues qui sont mal senties ou qui sont un peu putaclic, mais voilà, c'est aussi au public de se faire son avis et de voir un peu ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, et puis après chacun fait sa petite sauce et fait son petit marché.
Voilà, c'est toujours bien de terminer sur un dialogue de sourds. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux, mais l'ambiance est bonne. Voilà. C'est ça qu'on veut avoir. Moins de monde, mais qualitatif.
Guillaume Aurignac, est-ce que vous pouvez nous raconter les origines du stand-up aux États-Unis ? Dans quelle pratique ça vient puiser, au 19e siècle notamment ?
Alors, il y a deux origines au stand-up américain, effectivement, qui viennent plutôt de la fin du 19e siècle. La première, c'est les minstrel shows, c'est-à-dire ces endroits qui étaient où on faisait des spectacles et où les comédiens blancs américains se grimaient en noir, faisaient des blackface, imitaient des noirs et en même temps, de temps en temps, faisaient des petits spectacles humoristiques avec des blagues, voilà. La deuxième origine, ce sont les vaudevilles, qui étaient donc des spectacles itinérants. Alors d'abord itinérant sous chapiteau, puis après, à la fin du 19e siècle, on a construit des grands circuits de salles en dur dans toutes les villes qui poussaient aux États-Unis à la fin de la conquête de l'Ouest. Et donc les spectacles itinérants, c'était des troupes itinérantes qui allaient de salle en salle. Et dans ces spectacles, il y avait de tout. Il y avait des montreurs d'ours, il y avait des spectacles musicaux. Et dans les intermèdes de ces grands spectacles où il fallait changer les décors, donc on fermait le rideau. Et devant le rideau se mettait à ce moment-là ce qu'on appelle un comédien aux États-Unis, c'est-à-dire un humoriste en France, qui racontait quelques blagues pendant 10-15 minutes pour faire patienter le public en attendant que des décors soient de nouveau mis en place pour le spectacle suivant. Comme le rideau était fermé, ils avaient très peu de place, ils avaient juste un micro, et donc il a fallu qu'ils apprennent à divertir leur public avec juste ce micro à l'origine. Et puis en fait, très vite, dans les années 20, les salles de vaudeville ont été remplacées, enfin c'est-à-dire qu'on a conservé les murs, mais à la place de spectacles vivants, on a mis des écrans de cinéma. Donc ces salles se sont un peu vidées et les comédiennes, donc les humoristes, sont allées se réfugier dans les clubs et notamment dans les nightclubs qui étaient tenus par la mafia puisqu'on arrive au moment de la prohibition. Et donc là, ça fait partie du spectacle de divertissement au sein de la soirée où on s'alcoolise bruyamment. Donc il fallait vraiment hausser la voix et imposer son spectacle dans ces scènes de nightclub.
Et les premiers stand-uppers,
René-Marc Gage, fondateur de l'école de l'humour et des arts scéniques.
C'était des humoristes qui, au début du siècle dernier, étaient dans des boîtes de nuit gérées par la mafia. Et au milieu de nanas avec des plumes dans le cul et puis des numéros de music hall, on envoyait un humoriste pour brocarder le patron de la boîte, donc le mec de la mafia, qui une fois qu'on lui envoyait des vannes, que cet humoriste lui envoyait des vannes, pouvait pas vanner devant son public et ses clients. Ah, j'ai de l'humour, j'ai de l'autodérision, etc. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que si le mec qui était sur scène, il envoyait la mauvaise vanne, l'autre, il claquait des doigts, le patron de la boîte. Le comique, il partait directement dans la cour de récréation. Il se faisait flinguer de mitraillette et c'était terminé. C'est-à-dire que le stand-up, c'est se tenir debout face à une réaction et peut-être une adversité.
Daniel, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ta vie dernièrement ? On a le temps, Daniel. On a le temps.
Non, il a fait beau.
Il a fait beau, d'accord. Tu as vraiment passé la journée les yeux fermés, Daniel. Non, il s'est passé un truc bien dans ta vie ou pas, Daniel?
Et puis, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, où les gens avaient besoin beaucoup de beaucoup rire, progressivement, ces nightclubs ont essaimé dans tout le pays et se sont ouverts à un plus large public que celui qui venait se boire, en fait. Et c'est devenu l'attraction en elle-même. On venait voir un comédien de stand-up raconter des blagues ce soir-là. Enfin, c'était plusieurs comédiens, c'était des plateaux de comédiens. Et donc, à ce moment-là, il arrive à une sorte de maturité sur le registre de son développement, mais pas de sa forme, parce qu'il y a une grande révolution qui arrive dans les années 50 avec des comédiens comme essentiellement Lenny Bruce mais aussi Mort Sahl et qui d'un seul coup vont dire c'est aussi un spectacle d'improvisation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que faisaient les comédiens de stand-up, c'est qu'ils racontaient des blagues. Et parfois, c'était des blagues qu'ils n'écrivaient pas eux-mêmes et c'était même des blagues qui étaient vendues par des auteurs à plusieurs comédiens différents. Et là, ça change du tout au tout dans les années 50. Ça arrive à une sorte de maturité artistique. Lenny Bruce, Mort Sahl, décide de commenter l'actualité, de commenter un peu la société américaine du moment. Et ils improvisent sur scène. Ils ont des interactions avec le public. Et ça, c'est vraiment la naissance du stand-up moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui.
What is comedy?
Qu'est-ce que la comédie? Comment on fait pour faire de la comédie? Je ne connais pas les réponses à ces questions.
Lenny Bruce.
Je ne suis pas Lenny Bruce. Je suis un taré qui s'est évadé de l'asile de Napa. Donc vous, chers téléspectateurs, en ce dimanche après-midi à 16h30, vous allez voir le spectacle le plus sale, le plus blasphématoire jamais vu à la télévision. Uniquement conçu grâce à mon bon esprit malade.
All right, boys and girls, let's see, get them up here. All right, see the first act of the Kanazawa Trio. Okay, okay, do it. Da 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 da
da. Est-ce qu'on peut dire que le stand-up, du coup, dès l'origine, c'est un art de l'interstice, de l'intermède?
On pourrait même dire que c'est un art qui s'est construit dans les marges, en fait. Alors, qui s'est construit à la fois dans les marges spatialement, qui s'est construit dans les marges entre l'art de l'entertainment. C'est vraiment dans les cales du grand spectacle américain. Il y avait Broadway, il y avait le cinéma, et il y avait dans les cales, dans les caves des nightclubs, il y avait donc le stand-up. Mais aussi dans les intermèdes de la société américaine. C'est-à-dire que comme c'était un art très minoritaire, ce sont les minorités qui s'en sont emparées. Alors évidemment, il y a eu les juifs américains, parce que dans les années 50, il y avait beaucoup de juifs américains qui ont travaillé dans le stand-up, mais il y a eu aussi la communauté noire américaine. Alors ce que je disais, c'est que à l'origine, donc ça venait des minstrel shows, là où il y avait les blackface, mais dans les minstrel shows, bientôt, ce sont les noirs qui ont fait eux-mêmes les minstrel shows, qui ont récupéré un petit peu leur identité, et ils ont appris du coup à faire des blagues. Alors très longtemps, il y avait une sorte de ségrégation, c'est-à-dire que c'était uniquement pour un public noir, et notamment, c'est ce qui explique par exemple l'existence de l'Apollo Théâtre à New York, du côté de Harlem, qui était vraiment fait par des comiques noirs pour un public noir, très longtemps. Et ils ont développé une forme d'humour un peu à part, un peu particulière, beaucoup plus satirique et moqueur. Et ça s'est vraiment étendu et ça a accompagné le mouvement des droits civiques dans les années 60. Ils ont fini par atteindre un public blanc. Le premier à avoir fait ça, notamment, c'était Dick Gregory, qui était un stand-upper noir américain et qui était très féroce, et était un grand satiriste et qui, grâce à Hugh Hefner, le patron de Playboy, a eu droit de rentrer dans des clubs où il y avait un public blanc et a joué devant un public blanc. Voilà, il était très connu à l'époque. Après, il a un peu disparu. Il a fait beaucoup plus de politique que de stand-up. Il s'est même présenté aux élections présidentielles américaines, je crois. Et ça a été c'est un personnage extrêmement important du stand-up américain, dit Gregory. Wondering if Russia make it to the moon before we will, or Russia make it to the stars before we will. So what?
We'll be the first to give them foreign aid. Moi, pour tout vous dire, ma vision du stand-up, c'est ça. Le stand-up se modernise dans les années 50, avec quelqu'un, une figure révérée, qui est Lenny Bruce. Lenny Bruce, c'est quoi? C'est les années 50. Les années 50, c'est quoi? C'est la reformulation du monde moderne, avec l'American Dream, la société de consommation qui arrive, et l'idée qu'en fait, on suspend l'histoire. Après le trop-plein d'histoires de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre, des massacres, des bombes atomiques, on n'en peut plus, on a envie de se recentrer sur le bonheur, et ça se traduit par l'invention de la télé, de la société de consommation, du supermarché, et en fait, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on réduit la vie à des gestes complètement déconnectés d'une histoire. C'est du pur présent. L'histoire n'existe plus. Vous savez, ça s'est même traduit sur le plan de la théorie par l'idée de la fin de l'histoire. Que après la guerre froide, dernière guerre, enfin on arriverait à mettre un terme à l'histoire. On pourrait pleinement se consacrer à consommer. Et le stand-up arrive là, dans les années 50. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, le stand-up arrive là pour dire, bon, bah, s'il n'y a plus d'histoire, s'il n'y a plus de vécu, en fait, on n'a plus que soi à raconter. Il n'y a plus que ma petite histoire personnelle, mon petit vécu à moi de Lenny, de Richard, de Bill à raconter. Mais il y a quelque chose de profondément dérisoire là-dedans. Et c'est ça qui fait les très grands du stand-up. C'est quand, en fait, le stand-up vous dit, je suis désolé, mais je n'ai rien d'autre que moi à vous raconter.
Mesdames et messieurs, Lenny Bruce. Vous savez, en y réfléchissant bien, je suis pourri jusqu'à la moelle. Ouais, c'est la vérité. Tout mon cirque, toute ma réussite financière, enfin tout quoi, eh ben c'est fondé uniquement sur la ségrégation, la violence, le désespoir, la maladie et l'injustice. Et si par miracle, le monde entier devenait tout à coup calme et pur, moi je n'aurais plus qu'à pointer au chômage.
Lenny Bruce, très longtemps, va jouer sur des scènes qui sont des scènes, les clubs de striptease, en fait, de Los Angeles, où il est donc très libre. Et il va, dans ces clubs-là, il y a des groupes de jazz qui accompagnent constamment les effeuillages, et il va sympathiser avec eux. Et c'est comme ça qu'il va découvrir ce registre du cool, et donc de l'expression très personnelle. Il va aussi découvrir la drogue, d'ailleurs, ceci dit. Et il ne va plus pouvoir en sortir. C'est-à-dire qu'il va, découvrir cette liberté-là de venir monter sur scène et de parler de son expérience de la journée et de faire rire le public avec ça. Et il ne va plus jamais quitter cette magie-là, en fait, cette espèce d'illusion incroyable de pouvoir faire rire les gens avec des choses personnelles vécues le jour même ou bien la veille ou la semaine précédente. Voilà. Et donc, même quand il va développer sa carrière, et connaître un immense succès populaire, il va poursuivre sur ce chemin-là, c'est-à-dire une expression très personnelle. Et ça va être accompagné par d'autres personnes qui vont aussi découvrir la psychanalyse et donc qui vont parler de ce que c'est que la névrose de la classe moyenne américaine à travers le registre de l'humour sur scène. Et je crois qu'il y a un article de, je crois que c'est Time Magazine, qui va parler de la sick comedy, la comédie malade, et en fait qui parle de la comédie névrotique de ces années-là, pour raconter à quel point tout ça devient extrêmement personnel. On n'est plus du tout sur des blagues impersonnelles, on est sur des rapports à la névrose de l'Américain moyen.
Aujourd'hui, on a des espérances de vie, 80, 85 ans, mais avec une usure du corps qui est la même qu'en 1789. Je veux dire, c'est ça le problème, en fait. C'est que moi, je sens que mon corps est fini, je suis flinguée, je suis fatiguée physiquement. Ça y est, vraiment, quand il pleut, je boite, ça y est, c'est fini.
Blanche Gardin, enfin, 2017.
C'est vrai, le matin, je me lève jusqu'à midi, j'ai la voix de mon père, la gueule de Mohamed Ali, je sens que mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je vois bien, enfin, les organes dégénèrent, je le sens, je le sens vraiment. Que je ne mets pas de déo, je sens à soupe, maintenant. Je sens à soupe. Non, mais... la bonne sous-soupe, hein, c'est pas le problème, mais pourquoi la soupe? Non, mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe, d'ailleurs. De toute façon, je peux plus rien manger. Je digère plus rien. Je digère plus rien. Ce système digestif est périmé. Mais vraiment, il n'était pas fait pour durer aussi longtemps. Non, mais j'ose même plus pisser sous la douche, parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu maintenant. La vie sans gluten, quoi. Je suis pas toute seule. Je peux pas être toute seule, c'est pas possible. On n'entend parler que de ça. C'est le mal du siècle. Hein. Tout le monde a les intestins pourris. Hein.
Je suis tombée sur un spectacle de Gardin, en fait.
Les gens disent oui, c'est ça.
Et j'allais vraiment pas très bien à cette époque-là. Et je me suis dit, ok, bah moi je veux faire ça, en fait. Mais si je veux faire comme elle.
Amandine Lourdel, humoriste.
C'est-à-dire faire comme elle.
Bah, prendre un peu toute la merde qu'il y a dans toi et essayer d'en faire un truc marrant, quoi. Ouais. Et puis je trouvais que sa parole, elle était tellement libre. C'était la première à faire ça. Je pense qu'elle a vraiment ouvert une voie pour tous les stand-uppers en général, quoi. Pour moi, elle a vraiment... Il y a un avant et après cette personne dans le stand-up, quoi. Dans l'humour en France. Je pense que les thèmes, ils changent en fonction de ta vie. Mon frère, je suis venu voir mon spectacle, il m'a dit... C'était au tout début, en plus, donc je pense que mes thématiques, elles ont quand même un peu évolué. Mais il m'a dit, il est bien ton spectacle, mais dommage que tu parles que d'alcool et de cul, quoi. Je lui dis, bah, j'aimerais bien te parler de physique quantique, mais c'est des sujets que je maîtrise un peu moins bien, tu vois.
Y a des parents par applaudissement, les parents?
Oh, d'accord. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui n'ont pas encore d'enfants et qui voudraient en avoir ? Par applaudissement. Oh, tu t'appelles comment ? Célia. Célia, accoucher, c'est horrible. Voilà. Pour te dire à quel point c'est horrible, j'avais demandé une péridurale et au bout d'un moment, j'avais tellement mal, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie, Célia. Après, Célia, ma fille n'a pas fait ses nuits pendant un an et demi. Donc vraiment, à l'époque, sur l'échelle de la joie de vivre, je me situais entre Elisabeth Borne et un caillou. Après, moi, je voulais tout faire bien, alors j'ai allaité. L'allaitement, super. Et puis un jour, ma fille a eu une dent en haut et une dent en bas. Et là, c'était comme allaiter une agrafeuse. Après, il m'est arrivé un truc, ça va vous énerver parce que c'est devenu à la mode. Mais moi, ça m'est vraiment arrivé, donc je vais vous le raconter. Quand ma fille avait un an, elle a été diagnostiquée... HPI. Vous avez vu comment vous êtes déjà saoulée ? Ouais, je vais vous raconter quand même. HPI, haut potentiel intellectuel. Alors, je vous raconte, on était chez le pédiatre et elle lui a expliqué que la tortue était la maman du canard. Et donc, le pédiatre, il m'a regardé, hyper étonné. Il m'a dit, attendez, elle fait des phrases complètes à un an, mais très, très en avance. Et moi, je lui ai dit en même temps, si c'est pour dire de la merde.
Christine Béraud, humoriste.
Quand on commence à faire du stand-up, en fait, on regarde notre vie à travers le prisme de l'humour. Et en fait, dès qu'il nous arrive un truc, on se dit, ah, ça ferait un sketch, ça ferait une bonne blague. Ça veut pas dire que ça le fera. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et puis en fait, je dirais que ce dont il faut parler sur scène, c'est mon humble avis, c'est pas ce qui nous fait rire, c'est ce qui nous préoccupe. Parce que ce qui nous fait rire, c'est pas dit que ça fasse rire quelqu'un d'autre. Mais ce qui nous préoccupe, c'est là qu'on va venir apporter sur la scène une réflexion, un point de vue, un recul. Parce qu'il y a de fortes chances que si quelque chose vous préoccupe dans votre vie, ça doit préoccuper d'autres personnes. Et en fait, la vérité, c'est qu'on monte pas sur scène pour parler de nous, on monte sur scène pour parler des autres. Mais on fait croire qu'on parle de nous. En plus, là, je vais rater sa coupe de cheveux, donc nickel. Quand on débute, on monte sur scène pour prendre des applaudissements. Et on en a besoin et c'est nécessaire. Mais après, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on fait ça à la base pour rendre aux autres et pour leur donner un point de vue, une réflexion, rire de leur quotidien, de leurs problèmes, des élections, que sais-je, et qu'ils repartent chez eux avec quelque chose qui va leur permettre de voir le monde de façon un peu plus jolie.
Les amis imaginaires de Jeanne perturbent la classe. Il y a un petit level quand même, hein. Ouais, merci.
Je pense que le bon stand-up, c'est de rendre universel ton personnel. Et on monte pas sur scène pour se réparer, même si c'est un effet bonus, on va pas se mentir, mais c'est pas la première intention. On monte sur scène pour proposer une vision du monde qui nous semble absurde et qu'on a envie de partager avec les autres. Parce qu'il y a de fortes chances que si on trouve quelque chose d'absurde, les autres le trouvent absurde aussi. Alors je dis pas qu'il faut toujours être hyper engagé. Des fois, ce soir, vous m'avez vu parler de choses engagées, mais vous m'avez vu aussi parler de mon ex et de Tinder. Mais le but du jeu, c'est de rendre un peu fantastique la normalité et le réel, quoi. C'est de rendre drôle le réel et de se dire, ah, bon, ça va, on n'est pas fou, on voit bien que tout ça est absurde et on en rit ensemble. Et je pense que c'est ça la beauté du métier.
Le rapport à la dérision, il est consubstantiel à l'humour. Dérision, c'est détruire le sérieux. Et j'ai presque envie de dire d'ailleurs que la cible de toute forme d'humour, c'est toujours le sérieux. Le sérieux, attention, c'est pas à confondre avec la gravité. La gravité, c'est quelque chose de réel. Des enfants qui meurent bombardés dans un hôpital, c'est grave. Le sérieux, c'est une attitude. C'est l'attitude qu'on se donne pour faire croire que, justement, certaines choses ne sont pas dérisoires. Le point de vue du comique est un point de vue démoniaque. C'est de dire, non, potentiellement, on peut tout tourner en dérision. Je peux rire de tout. Ça, pour moi, c'est l'essence même du comique. Je peux rire de tout, absolument tout. Et ce qui fait d'un comique un comique, c'est sa capacité à faire rire de tout. Pas simplement à rire de tout, à faire rire de tout.
California State Spelling Bee, and I'm glad to be here. H-E-R-E, here.
Mortsad.
President Kennedy, as you know, was in Paris, where nothing happened. I mean, eventful. He got off the plane and said, take me to your leader. That's the report here. And there was a lot of confusion at that order. And then he got back in the plane.
C'est un moment aussi où le stand-up se politise aux États-Unis.
Alors ça, c'est venu très tôt. En fait, très tôt. C'est venu vraiment au moment de la réforme du stand-up, de cette espèce de réforme incroyable qu'a initié Lenny Bruce dans la fin des années 50. Et ça s'est politisé vraiment dans les années 60. Donc Mortsal était vraiment le grand représentant à côté de Lenny Bruce du stand-up politique, de la satire sociale, du commentaire politique. Mortsal commentait quasiment les actualités politiques. Il venait avec un journal dans les mains et il commentait les articles de presse. Alors ça nous évoque quelque chose en France parce que c'est exactement ce que faisait Guy Bedos, sans dire qu'il faisait du stand-up, mais Guy Bedos a été très influencé par Mortsal et par Lenny Bruce.
Ah là 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 là. Tous ces pays qui crèvent de faim.
C'est pas Dieu possible, c'est pas possible. Ça va péter, attends un peu, ça va péter de partout. Les Vietnamiens, les Indiens, les Africains, moi ça me fout une angoisse. Hier, après le journal télévisé, j'ai été saisi d'un bourdon. J'étais pas seul, j'ai bien vu. Le Mourouzi, il avait une petite mine. Oh là là là. Aujourd'hui, ça va encore. Mais hier, après le journal télévisé, une angoisse insoutenable. Oh, les malheureux. Des millions de gens qui crèvent de faim. Je me suis dit, je ne peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh ! Je suis allé au restaurant.
Ce serait quoi les caractéristiques du rire français ?
Aujourd'hui, c'est assez difficile de répondre à ça dans la mesure où le rire français est complètement en train de... est submergé par une vague culturelle qui est celle de l'uniformisation sur le modèle américain. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous fréquentez un tout petit peu les scènes de théâtre ou que vous regardez ce qui se fait à la télévision, vous assistez depuis 20 à 30 ans à une grande transition de style entre un humour de personnages, de scènes où on maintenait le quatrième mur, qui en fait était l'héritage du café-théâtre, c'est-à-dire typiquement Coluche, Le Splendide, Les Inconnus. Et puis, depuis voilà 20, 15, 10 ans, 5 ans, on a une domination écrasante du stand-up, qui est en fait une forme qui nous vient des États-Unis. Donc si on plonge sa sonde dans l'identité de l'humour français aujourd'hui, on est un peu perdu. Si on recule un peu le curseur, je dirais si on s'en tient à la scène, les cafés-concerts qui sont à l'origine du cabaret, le cabaret tout bêtement, si on va dans une référence très populaire, vous savez, c'est le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur France 2. Bon alors ça n'existe plus, mais des shows, des numéros, à la croisée du cirque, à la croisée du, évidemment du théâtre, et à la croisée du sketch, de l'acrobatie, tout ça. Et ça va donner lieu à des numéros de comiques qui vont jouer des personnages et qui vont faire émerger des figures, mais que vous connaissez tous, hein, par exemple, quelqu'un comme Michel Serrault, par exemple. Et tout ça, en fait, ça a perduré au 19e siècle, ça a coexisté avec l'opéra bouffe, avec le vaudeville, avec le théâtre de boulevard, mais ça a perduré, en fait. Le cabaret, le café-concert, on fait naître des Fernandel, on fait naître des Louis de Funès, on fait naître des Bourvil. Et donc, je dirais que notre tradition à nous, elle vient de là. Ce qui relance l'idéal du café-concert, en fait, d'un spectacle populaire à la portée de tous, qui serait à la croisée de la satire et de quelque chose de très léger, c'est le café de théâtre.
Dites-moi, justement, je cherche un sujet de reportage, vous n'auriez pas une petite idée ?
Ouais, voilà, vous êtes tombé juste, le café de théâtre, le splendide, le superbe café de théâtre.
Bon sang, mais c'est bien sûr ! Ouais,
bah, qu'est-ce que
j'ai ? Jacques, le micro !
Bah oui, il y a un micro là,
tiens, ça tombe. Tiens, par rapport au théâtre, qu'est-ce que c'est ?
Disons que c'est un moyen de travailler différemment.
C'est moins cher et tout le monde rigole beaucoup, on écrit tout.
Complicité, disons, par rapport au théâtre, quoi. Les gens sont plus près, c'est un gros plan par rapport au cinéma, quoi. Le théâtre, c'est un plan général et le café-théâtre, c'est un gros plan, quoi.
Et comment vous êtes retrouvés ? Est-ce que vous êtes tous des acteurs professionnels ou au contraire ?
On gagne notre vie un peu.
Le terme café-théâtre est intervenu à partir du moment où des salles, contre un système, en totale liberté, ont commencé à faire des spectacles créés en bande, avec dans la salle des tables où on pouvait avoir une consommation, c'est-à-dire café, théâtre, et où à partir de ce moment-là, on cassait le code du pur théâtre traditionnel où les gens s'habillaient, venaient, ça existe toujours, dans un bon fauteuil rouge, dans un beau théâtre. Non, on pouvait voir tout et n'importe quoi en totale liberté d'expression devant une table avec une boisson derrière. Rien à voir avec le cabaret ou le dîner-spectacle. Le café-théâtre, c'était vraiment ça. D'ailleurs, au Café de la Gare, il y a une roue à l'intérieur du Café de la Gare qui est toujours là, qui est une roue historique. Ils faisaient tourner une roue au début parce que la roue donnait le montant du tarif pour rentrer. On pouvait payer 1 franc, 2 francs, 5 francs, 15 francs, selon, un peu comme la roue de la fortune, le moment où la petite langue de la roue s'arrêtait.
Moins 1 et 20, et ce chiffre au scandale va être le prix d'entrée.
Il y a même des salles où on payait au poids. Ils ont arrêté, mais chacun se pesait. Évidemment, ce qui était plus lourd payait plus cher. Donc, ils arrêtaient un peu le concept. Mais il y a plein de salles qui ont essayé ça à l'époque du café-théâtre. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des comédie-clubs qui ne sont pas des salles de spectacle, qui sont des cafés, des restaurants. C'est le patron du lieu qui organise les boissons et ça n'a rien à voir avec le spectacle.
Les vrais héritiers de mai 68, c'est-à-dire d'un idéal de création collective troupière, c'est le Café de la Gare, c'est le Café Théâtre. C'est Romain Bouteille, Coluche, Miu Miu, Patrick Devers. À l'époque, vous avez aussi des espèces de présences un peu ponctuelles, mais Gérard Depardieu, par exemple. Et puis évidemment, ceux qui vont qui vont hisser à un degré de popularité maximum la tradition du café-théâtre, c'est-à-dire cette espèce d'anarchie qui donnerait lieu à des fulgurances sur scène, donc mi-improvisées, mi-écrites, c'est évidemment le Splendide. Et je contresigne totalement à cette popularité. Je veux dire, le Splendide, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de Français, ce sont ceux qui ont poussé l'idéal du café-théâtre le plus loin.
Allô?
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 Allô, détresse, amitié?
Je ne vous entends pas.
Allô, détresse, amitié?
Allô?
Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire?
Appuyez sur le bouton.
Oui.
Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne.
Alors, le café-théâtre, c'est vrai que c'est quand même un type de pratique qui ne cesse de s'adresser quand même à des publics plutôt populaires et qui vise aussi à représenter ceux et celles qui ne sont pas toujours représentés à l'écran.
Nelly Kemener, chercheuse.
Et en fait, l'idée de ce type de projet, plutôt avec une dimension un peu populaire mais urbaine, un peu ouvrière presque, c'était aussi d'ouvrir des espaces d'expression scénique pour des comédiens et comédiennes qui n'avaient pas nécessairement le corps ou la formation qui leur permettait d'entrer dans les théâtres classiques. Et même le Splendide, hein. Beaucoup d'entre eux quand même venant d'origine sociale un peu plus aisée, en tout cas plus que pour le Café de la Gare. Donc il y a eu cette idée aussi de donner des espaces pour des personnes qui se reconnaissaient peut-être pas complètement dans un théâtre considéré comme plus noble ou plus légitime à l'époque.
Vous êtes dans le boulot, comment vous travaillez?
On travaille pas.
Non, c'est ça.
On travaille pas, c'est
ça. Je m'engage tout de suite.
Parce qu'il y a des gens dans la salle.
Il y en a toujours un qui est bien.
Sans ça,
on commence toujours un truc, c'est très 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 mauvais parce qu'on l'a pas répété. Puis ça finit par devenir un peu meilleur parce que je suis vachement modeste. À force de le jouer devant les gens, on finit par trouver des tas de trucs. Puis comme évidemment on n'a pas de critiques qui sont venues, qui nous ont massacrés au départ, on a le temps de se remettre sur nos cannes.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite les formes qui ont été proposées, le Café de la Gare, c'était des sketchs pas écrits quasiment, beaucoup d'improvisation. Quand il a commencé à y avoir vraiment aussi un peu du seul en scène, c'était de la rémunération au chapeau, par exemple. Donc vraiment, tout ce côté, on crée une scène à partir de rien, au départ dans des cafés, et puis petit à petit, on élabore une sorte de modèle un peu alternatif d'accès à la culture, en fait, et une culture ici humoristique.
Et ça me permet de vous dire qu'il y a un chapeau. Certes, est-ce que tu peux le faire passer sans vouloir commander Donc voilà, ça coûte 6 balles ici. Si vous pensez qu'on vaut moins que 6 balles, vous mettez moins de 6 balles, mais je pense que ça valait plus. Donc n'hésitez pas à mettre de l'argent. Et j'ai également un sum-up. C'est une petite machine pour prendre les cartes bleues. Je me suis dit, c'est un petit peu pute de récupérer de l'argent là-dessus. Après, je suis allé à l'enterrement de ma grand-mère. L'église avait un sum-up. Je me suis dit, on peut vraiment y aller de notre côté.
Mais si on regarde les premiers sketchs seuls en scène de Coluche, en réalité, il est quasiment dans une interaction immédiate avec le public. C'est-à-dire, on sent le public autour, et parfois, il n'y a pas vraiment de dialogue immédiat, mais on sent bien qu'on est à la limite de la discussion, d'une certaine façon. Donc, il y a une très forte proximité aussi même sonore du public. Et donc, il y a cette tradition-là qui vient plus du café-théâtre.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, parce que... Par exemple,
Et là où je dis où ça s'est réinstitutionnalisé par la suite, c'est que les années 80 marquent quand même le développement de toute une série de salles de café-théâtre dans Paris et dans quelques grandes villes en France. Et ce moment-là de déploiement un peu des salles a ramené aussi des formes quand même assez théâtralisées qui sont aussi liées à des émissions de télé. C'était le Petit Théâtre de Bouvard, La Classe de Guy Lux. Donc ces émissions qui ont fait émerger la génération des années 90, Muriel Robin, Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, on retrouve Les Inconnus aussi, Mimi Mati, beaucoup d'humoristes qui ont ensuite été très connus dans les années 90 et qui finalement ont beaucoup joué quand même des scénettes sur scène. Donc la dimension très théâtrale a amené à rejouer quand même un quatrième mur avec le public. Ce qui fait que le café-théâtre tel qu'on y a accès dans les années 90, le one-man show et le one-woman show, qui a été beaucoup diffusé parce que la vidéo a permis de garder des traces des spectacles, parce que la télévision a commencé à déployer aussi des émissions dédiées à des sketchs humoristiques, eh bien c'est un café-théâtre qui a perdu un petit peu son lien avec le public à ce moment-là.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous, ça va bien ?
Oui !
Cool. Je me présente, je m'appelle Amandine, moi je suis ce qu'on appelle une femme indépendante. Enfin, c'est comme ça qu'on dit maintenant quand on est seul comme une merde. Non, parce que moi, je suis indépendante, mais indépendamment de ma volonté, quoi. Bon, ça a ses avantages, bien sûr, comme tout, ça a ses avantages. C'est, moi, je trouve que ce qui est cool quand t'es célibataire, c'est que t'as toujours des histoires un peu marrantes à raconter. C'est, moi, je vois mes copines qui sont en couple depuis longtemps, quand ça se passe bien, parce qu'apparemment, c'est possible, elles ont plus grand-chose à raconter. T'es là, ça va, vous avez fait quoi ce week-end ? Ah, et ben, Guillaume m'a fait un cake. Ah. J'ai une pote qui est toute seule encore et il y a pas longtemps elle m'a dit non mais t'inquiète meuf, bientôt on va rencontrer quelqu'un parce que là c'est sûr, statistiquement j'ai lu, les deux tiers des gens de notre génération vont divorcer et là nous on sera là et on va récupérer les miettes des autres. Elle me dit c'est pas compliqué, tout ce qu'on a à faire c'est attendre le deuxième service. Et ben beau projet de vie Magali. Voilà, donc apparemment moi je suis coincée dans la cantine de l'amour et j'attends qu'il y ait durable, quoi. Surtout après, je me suis dit, attends, je sais pas trop de quelle miette elle parlait. Si c'est les miettes des pains en chocolat de leurs enfants une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, franchement, non merci. Non. Ah non, moi je n'ai pas d'enfants, c'est pas pour me tarter ceux des autres. Hein. C'est pour finir par entendre un beau jour, oui, bah laisse-moi tranquille, toi, t'es pas ma mère. Oui, bah je sais, Mathéo, t'as vu ta gueule. Va me faire une suze.
Un des principes du stand-up aussi, c'est la disparition du quatrième mur, ouais. C'est-à-dire l'adresse directe à la salle. Vous, comme vous avez une formation théâtrale, il a fallu abattre ce quatrième mur. Ouais. Comment ça s'est passé ?
Moi, j'ai galéré de ouf. Et encore, interview, je fais pas beaucoup d'interactions et tout. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Bah, c'est des trucs de technique, en fait. Moi, on m'a appris, tu vois, à jouer la tête haute, regarder le fond de la salle. Par contre, tu vois, je me sens, quand je suis arrivée dans l'humour, j'ai fait des festivals et tout, et je voyais que par rapport à ceux qui avaient plus l'habitude des comedy clubs, moi, je savais plus gérer des grandes salles, par contre. Je savais plus me déplacer sur un grand plateau, savoir m'adresser s'il y a un balcon, je savais plus le faire. Par contre, quand j'ai commencé les comedy clubs où tu vois tout le public, où des fois les gens ils te répondent, la lumière, la proximité, oh, j'étais dans le mal, quoi. J'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à m'habituer à ça et à me dire il faut que ma parole elle soit beaucoup plus immédiate que théâtrale. Après, je sais pas si t'as vu, il y a un côté théâtral quand même, je pense, ça se ressent. J'ai pas le flow stand-up que qu'ont plein de gens quand même. J'aimerais bien, moi je voulais vraiment. Et il y a un moment, j'ai fait le deuil de ça, je me suis dit, j'y arriverai jamais, je ferai jamais du stand-up, j'arriverai jamais à faire des interactions. Et donc j'ai juste dû m'habituer en fait, voilà, à vraiment parler aux gens, regarder les gens, te laisser être regardé sans qu'il y ait cette distance-là. Et tu vois, maintenant, ça y est, maintenant quand j'arrive dans une salle où je vois pas assez le public, j'aime pas, tu vois. Je demande au régisseur, il faut que tu me baisses un peu pour les faces pour que je voie le public plus. Parce que en fait, une soirée comme hier soir où j'ai trouvé que ça rigolait pas assez, je voyais quand même bien les quatre premiers rangs, donc je voyais que sur les visages ça allait. Je trouvais que les rires restaient pas assez sonores, mais je voyais bien que les gens étaient contents. Donc ça va. Mais ouais, c'est important de voir un peu les gens quand même, savoir commenter avec eux et tout ça, ça fait. Au théâtre, tu t'en fous un peu, quoi, tu vois.
Ok, on continue un petit peu, je vais vous parler encore un peu.
Café Oscar, Comedy Club à Paris, novembre 2024.
Yassine et Elias, ok. Vous êtes des amis ?
Oui, on est amis.
Ouais, et du coup, vous faites quoi, vous, dans la vie, monsieur ?
On est urologue.
Urologue ?
Chirurgien urologue.
Oh, c'est beau ?
Oui.
Enfin, c'est chirurgien qui est beau. Après, urologue, je sais pas ce que ça veut dire.
Un peu moins beau.
C'est bien ce que je me disais, ouais.
C'est l'appareil urine.
D'accord, ok.
Pour l'instant, tu as pas envie de savoir, mais dans 20-30 ans...
Oh, je viendrai tout le monde. Ah, ok, ouais, ouais. Après son Doctolib, je vais te chercher, c'est ça. Et je viendrai prendre rendez-vous. Ok. J'ai envie, du coup, de vous demander en quoi ça consiste, mais plus du tout, maintenant, en fait.
Tu n'auras même pas le choix. T'inquiète.
Ah ouais.
C'est les reins, vessie, prostate et les organes génitaux, etc.
Ah, allez, ça marche, effectivement, on se reparle dans 30 ans, j'espère, voilà. Plus tard même. Plus tard. Okay. Voilà. Mais du coup, vous avez besoin de rigoler énormément, vous, messieurs, vous êtes dans un état d'esprit où là, il faut rire.
On vient d'un congrès, on vient directement ici.
Ah oui, et là, c'est bière, rigolade, et après, Ok. Ouais. Est-ce que c'est un métier passion?
Oui, de toute façon, j'ai envie de dire, si tu n'es pas passionné par la médecine, ne la fais pas. Parce
que bien sûr.
C'est long, c'est
c'était
chiant.
Plus le. Ouais, je comprends. Mais c'est plus du coup là où vous êtes spécialisé. Qu'est-ce que c'est ça la passion?
C'est pour joindre l'utile
à
l'agréable.
Ok.
Se trouver dans des situations difficiles.
Mais ouais, vous avez des techniques qui fait que.
On peut faire l'autoconsultation.
Éviter des cancers de la prostate par exemple.
Par contre, j'ai pas envie de savoir comment on fait le dépistage.
Bien sûr, maintenant j'ai envie de savoir. Tu l'as dit ça, totalement.
Là, un doigt.
C'est le toucher rectal.
Ah, le fameux. Ok, d'accord. Dans des conditions médicales, du coup.
Bien sûr. Dans le respect, la bienveillance. Oula.
Il y avait une tradition dans le stand-up, c'est que ce principe d'être seul sur scène et de raconter des blagues fait que ça crée une sorte d'intimité avec le public et que cette intimité-là peut aussi donner le sentiment que parmi le public, on pourrait monter sur scène et pourrait à son tour raconter une blague, pourquoi pas. Après tout, on peut être aussi drôle que quelqu'un sur scène. Il y avait cette espèce d'illusion, parce que c'est beaucoup de travail le stand-up. On pense que c'est facile, mais en fait, c'est beaucoup de travail. Ça crée cette espèce d'illusion dans le public et notamment... Comme c'était un endroit où on boit beaucoup, les comedy clubs, parmi des gens qui étaient un peu ivres. Et donc, il y avait l'habitude, c'était un peu usuel, que, ça continue d'ailleurs, si on va dans les comedy clubs américains, on va le rencontrer encore, que quelqu'un d'un peu trop ivre interpelle le comédien, lui dise qu'il n'est pas drôle, que lui est plus drôle. Et à ce moment-là, soit le comédien s'écrase et il perd, parce que c'est vraiment un combat, c'est une mise à l'épreuve entre les deux, et il perd son combat. Et donc, on sent que son sketch, après, va être un peu effacé. Soit il surenchérit. Et c'est vraiment un combat à mort, c'est-à-dire dans une mort symbolique, évidemment. Et là, il va falloir qu'il détruise ce qu'on appelle le éclair, c'est-à-dire celui qui va interrompre. Ça a un nom, c'est le éclair. Il va falloir qu'il le détruise devant le public pour reprendre la main sur ce public-là. Et donc, il va y avoir une sorte de joute et un concours de vannes, de moqueries que doit absolument remporter le stand-upper. Que ça arrive ou que ça n'arrive pas, cette interruption, peu importe, ça crée de toute façon une sorte d'énergie électrique. Il y a forcément une tension dans la salle qui fait que le stand-upper ne va pas simplement dérouler ce qu'il a écrit, il va devoir constamment réinventer sur pièce ses blagues et ses traits d'humour. Donc on a besoin à ce moment-là de quelqu'un qui est très sûr de lui, qui est très à l'aise, qui est très cool et qui a vraiment un sens de la répartie phénoménal.
Ah oh oh
hey, ce serait mieux que tu me laisses finir avant de te marrer.
Excuse-moi, c'est toi, t'es trop marrant. C'est trop marrant, merci. Ta façon de choisir un petit défaut d'un spectateur et de nous faire marrer avec, c'est géant. Tu sais, par exemple, tu te prends un mec, tu te dis, t'as vu ses pieds? Tout le monde regarde et se marre. Moi, je m'étais jamais tant marré. Tu vas aller loin, tu atteindras les sommets, tu réinventes le métier de comique, mec. C'est génial.
Maman, merci, je te remercie beaucoup, tant mieux si t'aimes ce que je fais.
Ça marcherait même si je le faisais à toi, Reggie. Oh tiens, mettons que je dise, regardez les dents de ce pauvre garçon. Regarde bien.
Tu veux niquer mon numéro? Oh, bouffon! Tu veux me casser la baraque?
C'est tes dents, Reggie! Moi, je sais pas si je dois sourire en les voyant ou marquer un but entre les poteaux!
Avant l'arrivée du stand-up, il y a une transition. Il y a une transition entre, disons, l'idéal troupier qui est celui du splendide et ce qu'on va connaître dans les années fin 80, 90, début 2000, que sont les duos, les trios. Les derniers très très grands tenants de la tradition café-théâtre qui ont fait un trio, c'est les Inconnus. Pour moi, la fin officielle de l'esprit café-théâtre, à la rencontre de l'anarchie, de la révolution, mais aussi du cabaret et quelque part de la comédie italienne dans sa, au cinéma dans sa dimension très satirique, pour moi, le point final de ça, c'est Les Trois Frères. C'est Les Trois Frères en 1995, qui sont un très très beau film. Là encore, j'ai presque envie de dire qu'il faut réhabiliter Les Trois Frères. C'est notre très très grande comédie satirique des années 90. C'est notre comédie italienne à nous. Pour moi, il y a vraiment cette date, c'est-à-dire cette espèce de fausse transition où les inconnus viennent du café-théâtre et en même temps donnent l'idée aux autres de faire des duos et des trios. Typiquement, Éric et Ramzy, Élie et Dieudonné, tous les trios et les duos que vous allez avoir sur Canal et tout ça, viennent de là. Les inconnus ferment une porte tout en ouvrant un espèce de sas vers les duos et les trios. Mais les duos et les trios, c'est quoi? Selon moi, hein, maintenant qu'avec le recul, je me rends compte, les duos et les trios, en fait, c'était la transition vers l'individualité, vers le stand-up et quelque part vers le moi. Le moi, moi, moi. Le stand-up, c'est ça. Hein. C'est moi sur scène qui vous parle de moi.
Comment il arrive le stand-up en France, Guillaume Aurillac?
Alors, il arrive vraiment de manière très abrupte. Il arrive en 2006 avec une émission qui s'appelle le Jamel Comedy Club et qui est diffusée sur Canal+, et qui est initiée par donc Jamel Debbouze et son producteur Kader Aoun, et qui, eux, connaissent le stand-up. Surtout Kader Aoun, c'est un grand spécialiste du stand-up américain, donc il adore Richard Pryor, Eddie Murphy, il devait connaître déjà probablement Louis C.K., Dave Chappelle. Et avec Jamel Debbouze, ils se disent qu'il y a quelque chose à faire pour ramener le stand-up américain en France. Et notamment, il y a une raison derrière tout cela, c'est que ce que je disais sur le stand-up américain, c'est un art qui est fait par et pour les minorités. Et on est donc dans ces années-là, 2005, c'est les émeutes dans les banlieues, 2005, où il y a une sorte de crispation identitaire en France et où, on va dire, la France blanche, majoritaire blanche, et les médias blancs, qui sont aussi majoritairement blancs, découvrent qu'en fait, il y a une minorité qui est de moins en moins minoritaire, qu'on appelait de manière assez folklorique les banlieusards, et qui ne sont pas que les banlieusards, et que cette minorité-là, elle regarde la télé, elle a des attentes culturelles, elle veut être représentée sur scène, et que le stand-up est peut-être un excellent instrument pour ça, pour renouveler les générations comiques et renouveler aussi les visages qu'on voit dans les médias. Et donc, cette émission-là va s'imposer. Ils vont recruter à droite, à gauche, et notamment, ils vont passer des petites annonces, hein, très, très simplement. Et il y a des gens qui vont se retrouver à présenter des cassettes donc à Kader Aoun, mais qui ne connaissent rien en stand-up. Hein. Kader Aoun va leur montrer des VHS de George Carlin, de Richard Pryor, pour leur dire voilà ce que c'est que le stand-up, et leur dire, après avoir vu ça, tu as une semaine pour me proposer un sketch, et voir un peu si tu es à l'aise pour faire du stand-up. Et donc, Jamel, avec cette émission-là, va très vite imposer l'idée du stand-up. Alors, quand on voit les premières émissions, d'ailleurs, il explique le mot stand-up, parce qu'on ne le connaît pas en France, on ne sait même pas ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que c'est stand-up? Stand-up, it's American. From the American. To stand, I stand stupid. C'est verbe irrégulier. Qu'est-ce que ça nous vient de l'autre côté de la Méditerranée, les States? Alors, ça nous vient des États-Unis. Ce soir, on est tous des Américains, tous. You are American. Si, you are American. You are American. T'as la peu cool, toi, c'est on. You are American. Toi aussi, t'as la peu cool. You are American. On est tous des Américains. Non, c'est mal. On est tous des Américains aujourd'hui, y a rien à faire. Faites un maximum de bruit pour le premier de la liste. Il nous vient tout droit de Long Beach. Il s'appelle Thomas Gijol.
À l'époque, Jamel Debbouze, par la création d'un langage un peu nouveau qui mêlait des termes arabes, des termes un petit peu populaires et puis finalement un français compréhensible par tous et toutes. Enfin, voilà, il a créé une nouvelle langue quelque part. Quand Jamel Debbouze crée le Jamel Comedy Club, il ouvre une nouvelle voie en fait. C'est que il crée avec son émission une sorte de moment symbolique où l'appropriation d'un genre qui se revendique comme anglo-saxon, permet aussi un déplacement de l'humour de la scène du café-théâtre. C'est-à-dire on s'extrait d'une tradition plutôt française, très blanche, parce que c'est ça l'enjeu, c'est que c'est très blanc ce café-théâtre, même s'il y a eu quelques figures. On a parlé de Smain, on pourrait parler d'Elikaku, qui était quand même qui faisait du café-théâtre, mais c'est plutôt marqué par une certaine blanchité hégémonique à l'époque.
masculinité, mais c'est moins l'enjeu, on va dire, quand Jamel Debbouze propose son émission. Et ce faisant, à mon sens, il crée un nouvel horizon qui est celui de s'approprier un genre anglo-saxon qui parle de questions d'identité, qui revendique aussi sa dimension presque minoritaire, et donc qui crée les possibilités pour qu'en France se développe un humour qui vienne en partie des marges et qui soit aussi un humour dans lequel la question de l'identité et du récit de soi et des rapports de domination soit quelque chose d'un peu central. Donc oui, Jamel Debbouze a en tout cas joué un rôle important, surtout comme producteur d'humour et comme gérant d'une salle, parce qu'il a aussi créé des espaces pour le développement d'un nouveau genre. Et c'est vrai que le Jamel Comedy Club, c'était l'une des premières salles de stand-up à Paris. Et donc, c'est un peu à la suite de ça qu'on a vu se développer sur les scènes parisiennes et puis les scènes non parisiennes, progressivement, des salles qui se revendiquent du stand-up et qui proposent des scènes ouvertes ou des programmations un peu plus instituées sur un modèle qui est plutôt le modèle des villes américaines ou des villes britanniques, ce qu'on n'avait pas jusque-là en France, quoi, en fait.
Merwan Ben Lazar.
Bonsoir à Comedy Club, est-ce que ça va ? Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici. Vous avez fait une entrée magnifique, faites du bruit pour vous, mesdames et messieurs. Wow. Je regarde, vous êtes magnifique, il y a plein de gens. Il y a un monsieur qui est tout là-bas, je vous dis la vérité, je suis dans le rideau. Je regarde que le monsieur qui est là-bas avec les lunettes et la chemise. Enchanté, monsieur, je sais pas comment vous vous appelez. Enchanté Laurent, tu respires la stabilité bancaire, c'est impressionnant. Ils sont d'accord avec moi, c'est pour ça qu'ils rigolent. Vous rigolez pas parce que c'est marrant, stabilité bancaire, vous rigolez parce que c'est la première fois que vous voyez Laurent comme moi. Et l'être humain, il fonctionne de cette façon. L'être humain, quand il voit quelqu'un pour la première fois de sa vie, son premier réflexe, c'est d'analyser cette personne et essayer d'établir un profil de cette personne qu'il ne connaît pas du tout. Et on fait ça tout le temps, dans le métro, dans la rue, à la télé même. Et pour moi, c'est pas quelque chose de blâmable parce que c'est quelque chose qui est inné. C'est en l'être humain, on fonctionne de cette façon. Là, par exemple, je vois dans vos yeux, vous me regardez et vous vous dites, ouais, c'était marrant, on rigolait bien, pourquoi tu fais une conférence ? Mais.
Regarder un spectacle chez soi sans en faire partie, sans avoir l'énergie, sans avoir la chaleur de la salle de ce moment-là, et pas voir le gars en face, ça perd 70% de ce que c'est le stand-up quand on le regarde chez soi, sur une télé, sous un plaid, avec des notifications sur le téléphone, avec quelqu'un qui te parle en même temps, peut-être l'odeur des pâtes et le bruit de l'eau qui boue. On perd la moitié, quoi. C'est pour ça que c'est beau, mais c'est dans un monde qui devient de plus en plus connecté, machin, c'est un des derniers trucs qui se vit en live, quoi. C'est pour ça que moi, quand il y avait le confinement et qu'il y avait je comprends, qu'il y avait des comiques qui faisaient des trucs avec des iPads posés sur les chaises, machin et tout. Non. Acceptons qu'on sert à rien pendant 2 ans, ça me va. Moi, j'étais bien.
Oui, c'est ça. Et c'est surtout, c'est un art du corps, quoi. C'est des corps dans une salle et qui regardent
oui.
Un corps, quoi.
Oui, c'est ça. Et je pense à Lucien hier qui nous dit John, il voulait pas venir. Pour contextualiser, j'ai un couple, John et Lucienne. Donc je parle avec John, il est super sympa. Et Lucienne nous interrompt pour dire c'est moi qui voulais venir, lui voulait pas venir. Voilà, il voulait pas voir ta gueule. Et elle dit ça, et je sais que c'est maladroit de sa part et tout, mais tu vois, l'expérience du stand-up fait que je me dis, c'est pas de le cacher, c'est pas de camoufler le. Tout le monde va le sentir que t'essaies de camoufler un malaise et tout. Vivons le malaise ensemble. Et. On a vraiment vécu ce malaise ensemble, ça a duré quelques secondes, mais après, bien sûr, après, c'est mon travail de faire rire, donc on a rigolé et tout. Mais ce frisson-là, les gens, ils le vivraient pas de chez eux. Ils seraient que spectateurs. Alors qu'au final, être spectateur dans la salle, c'est être un peu acteur de ce qui se passe, je crois, dans le stand-up. Et ça, waouh, quelle phrase. Mais je m'en rends compte, mais tu vois, enfin voilà. On perd un truc, en tout cas, c'est sûr.
Moi, je pourrais vous raconter les blagues que j'entends, j'y arriverai pas, ce sera nul. Il y a quelque chose qui est complètement impalpable et qui n'appartient qu'au stand-upper, qu'à l'humoriste. La façon dont il le délivre sur scène, la façon dont il va jouer avec son public, ça n'appartient qu'à lui. On a l'impression de quelqu'un qui nous fait découvrir une situation à neuf. Mais c'est pas reproductible, on ne peut pas le reproduire. Et c'est ce mystère-là, en fait, qui fait qu'on continue d'aller voir des spectacles de stand-up, alors qu'on pourrait se dire qu'en fait, on l'a déjà beaucoup vu, que les blagues, on voit comment elles sont formées, comment elles sont faites. Voilà. Non, il y a toujours un moment, une surprise. Il y a quelque chose qui échappe à l'analyse.
À Paris, je sortais de mon appartement, j'ai croisé 2 gars en train de se battre. 2 gars.
Reda Saoui.
OK, lundi, 18h. Ils étaient sous. Lundi, 18h. 18h, lundi. Et je te le jure, ils étaient comme « C'est pas Chucky ! Non, toi, c'est pas Chucky !
Non, toi, de ce pochu qui... Je comme, man, ils tentent de se présenter. Ils sont à un prénom d'être enchantés. Après ça, je me suis dit peut-être que c'était deux philosophes en plein débat existentiel. C'est comme, non, tu ne sais pas, je suis qui. Non, toi, tu ne sais pas, je suis qui. Personne ne sait, je suis qui. Après ça, je m'incruste, mais qui sommes-nous? Telle est la question.
Cet immense succès du stand-up en France, qui est un succès qui est venu très vite, hein, en l'espace de 10 ans, alors que le développement aux États-Unis, ça a été sur plusieurs décennies. En Grande-Bretagne, ça a été sur 30 ans. Et là, c'est venu en moins de 10 ans en France. Donc, est-ce que c'est pas allé trop vite? C'est la question que je me pose parfois. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, un stand-upper aujourd'hui, un jeune qui débarre dans les petites scènes de bar, dans les scènes ouvertes, ce qu'on appelle les scènes de micro ouvert, où en fait on peut demander à venir sur scène, à tester ses premières blagues, faire comme ça, on peut les retrouver un an et demi plus tard sur une chaîne de radio. Et ça me paraît aller un peu trop vite. C'est-à-dire que dans le stand-up, il y avait cette règle-là chez les Américains qui disait on n'est pas bon avant 10 ans de stand-up. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un art d'apprentissage de la scène, d'appréhension du public, de compréhension de comment fonctionne le public. Il y a quelque chose que racontent tous les stand-uppers, c'est-à-dire qu'une même blague, d'un soir sur l'autre, peut faire un bide ou un succès. Et ils ne savent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Le public a l'air le même, les visages ont l'air d'être les mêmes, et pourtant, parfois ça marche, parfois ça marche pas, avec la même blague. Et donc, c'est vraiment... Il faut surfer. C'est vraiment un art du surf sur le public. Le public est une vague, il faut surfer sur cette vague-là, et c'est très intuitif. Et l'intuition, comme toutes les grandes intuitions, eh ben ça se travaille. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'échecs et parfois de succès. Et c'est ça qui permet de comprendre, de sentir le public. C'est vraiment un animal, le public. C'est un animal qu'il faut sentir. Et ça, ça mérite beaucoup de temps.
Moi, je dis toujours, pour faire un bon humoriste, c'est comme un médecin, il faut 10 ans. Et il faut savoir aussi que moi, quand j'ai commencé en 2007, en fait, la barre était moins haute. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'exigences. Le public, il était content quand, dans un sketch de 5 minutes, il y avait 2 vannes. Or, maintenant, il faut être une mitraillette, quoi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de commencer à l'époque où ce public, justement, il aimait bien les personnages, il aimait bien qu'on prenne son temps, parce que ça m'a permis d'apprendre mon métier dans la douceur. Et donc j'ai pu m'adapter à ce monde qui changeait, qui devenait de plus en plus stand-up. Et puis après j'ai vu l'arrivée des réseaux sociaux où là il fallait être drôle sur TikTok en 30 secondes. Donc ça a été progressif pour moi. J'aimerais pas débuter maintenant, ça doit être d'une violence. Maintenant quelqu'un qui commence, il faut qu'il soit très très drôle tout de suite. Alors que moi on m'a laissé le temps de prendre mes marques, de découvrir qui j'étais. Et voilà, et puis d'apprendre mon métier. Et puis, oh non, de toute façon s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent être humoristes, on est beaucoup trop nombreux, arrêtez maintenant, ça suffit.
Les comiques, là, je crois qu'on n'a jamais eu autant de comiques qu'en ce moment. C'est de la folie, quoi.
Merci à Tristan Lucas, Guillaume Aurignac, René-Marc Gedge, Adrien Desnouettes, Amandine Lourdel, Christine Bérou, Nelly Kemener, Merwan Ben-Lazar, Pacôme Thielmont, Olivia Gazalé et Sophie Pérez. Traduction, Grégoire Lagrange.
Et si, c'est comme les zombies, c'est comme l'invasion de la moussaka géante, là.
Merci au Moki Bar et au Café Oscar à Paris pour leur accueil.
C'est l'invasion du gag, l'invasion des drôles.
Prise de son.
L'invasion des rigolos.
Florent Bujon, François Saint-Jour, Éric Boisset, Jean-Louis Deloncle, Julien Douminc et Anthony Thomasson.
Ça se manipule avec délicatesse, le rire. Hein.
Mixage, Éric Villenfin.
Les comiques à la radio, les chroniques, on est assaillis, quoi. C'est vraiment, c'est le retour des morts vivants, mais c'est le retour des comiques vivants, quoi.
Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Villoz. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin.
C'est l'injonction de la rigolade.
C'était Faire rire sur scène, premier épisode, Généalogie du stand-up, un documentaire de Romain Debecq-de-Lièvre, réalisé par Anne de Pelchin. Prochain épisode, Comment rire de tout.
Pourtant, moi j'aime bien rire, hein, mais là, il va falloir faire quelque chose en tout cas.
Une émission à retrouver sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France. Mais c'est pas facile à dire faire rire sur scène, c'est chiant. On s'est mis dans la merde.